2-1.
Il pleut ou encore vous avez de la pluie verglaçante dans votre secteur. Faites attention sur la route, c'est extrêmement glissant. Ça va pas super bien sur le circuit routier. Entre 10 et 15 mm annoncés pour ce qui est d'aujourd'hui. Ce soir, entre 5 et 10 mm. Donc, énormément d'eau. Des petites rafales aujourd'hui à 50 km/h. Ça devrait se gâter demain puisque demain, la neige intermittente avec des rafales à 80 km/h demain matin. Avec le refroidissement éolien, ça va être une température ressentie de moins 18. Des températures à la baisse pour atteindre un moins 7 pour ce qui est de demain. Et mercredi, à plus long terme, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 6. 418-9-7-1-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous texter.
Ça s'est compliqué beaucoup dans les dernières minutes au niveau des points chauds habituels. Capitale-Ouest entre, je dirais, Seigneurial et Laurentienne, il y a quand même un ralentissement considérable. Capitale-Est à l'approche de Pierre-Bertrand également. Laurentienne-Sud par bout entre Jean-Talon-Est et Capitale, c'est au rouge. Robert Bourassa, Benjamin vers le boulevard Le Bourgneuf. Arc 4 Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest au ralenti aussi. Plus haut, direction Shannon, il y a un ralentissement qui est assez habituel aussi. La 40 Est entre Duplessis et Henri IV, petit ralentissement. Et le secteur des ponts, c'est assez compliqué aussi. Il ne semble pas y avoir énormément d'incidents au moment où on se parle. Il y en a eu plus tôt ce matin. Ça s'est réglé relativement rapidement, mais soyez prudents.
Merci beaucoup. 7h36, David Chabot, notre chroniqueur international qui est au bout du fil. Salut!
Salut, je me suis fait avoir moi aussi par la complexification du réseau routier, fait que ouais. Je m'en excuse.
T'as fait confiance à ton GPS plutôt qu'à ton cerveau, c'est ça?
Ben c'est ça, tu sais, en 2026, de le réfléchir, c'est tellement passé de mode. Là,
ouais, c'est ça. Tu te souviens-tu de la dame qui s'était fait avoir, elle était rentrée dans une piste de skidoo parce que son GPS lui avait dit de passer là? Ça doit dater de quelques années, là, je dirais 10-15 ans, mais on était au début là, des GPS. Là, qui, ça commençait à être une petite mode, les GPS, là, mais te dire de virer dans une piste de skidoo, ça, c'était assez exceptionnel. Le GPS t'a dit de virer, tu vires sans savoir que t'es dans une piste de skidoo.
Ben, je te rassure, je suis pas sur la transprovinciale, je suis encore sur l'autoroute, fait que pour l'instant, ça va sur le GPS.
Parfait, parfait. David, on va parler de plein de sujets aujourd'hui avec toi. On va faire comme si c'était un pit stop de la semaine de relâche, mais on a des sujets quand même assez importants. En fin de semaine, on nous a parlé de réserves stratégiques, parce qu'avec le détroit d'Ormuz qui où plane l'inquiétude, Donald Trump dit on aurait peut-être besoin de l'aide de l'OTAN, puis même la Chine pour débloquer le détroit d'Ormuz pour assurer le passage des pétroliers. Puis là, il y a des statistiques qui sont sorties sur... Là, il y a des statistiques qui sont sorties.
Je pense que tu pourrais te ranger sur le bord, David.
Il y a des statistiques qui sont sorties sur les réserves stratégiques des différents pays. Entre autres, les États-Unis. On a parlé des réserves stratégiques des États-Unis, même si c'est un exportateur, un producteur et un exportateur de pétrole. Il faut dire que le pétrole aux États-Unis est un peu plus léger que le pétrole canadien, qui est un pétrole lourd. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous autres, on n'aurait pas besoin de réserves stratégiques versus les États-Unis, eux ont besoin de réserves stratégiques. On comprend que pour ce qui est des États-Unis, on consomme plus de pétrole qu'on en produit chaque jour, mais est-ce qu'il y a autre chose?
Ben, tu sais, la réserve stratégique, c'est un outil géopolitique là, avant tout. Évidemment, c'est économique parce que tu sais, le principe, c'est qu'on a des gros barils d'essence cachés à quelque part. Ben, en fait, c'est du brut pour les mauvais jours. Ça a été créé dans les années 70, après la crise de l'OPEP et tout ça, parce qu'à ce moment-là, les pays qui sont devenus l'OPEP qu'on connaît aujourd'hui, donc dans le Moyen-Orient, ils ont décidé de couper l'approvisionnement au reste de la planète en disant on va avoir nos gains politiques ou ben il n'y aura plus d'essence nulle part. Puis c'est ça qui s'était passé à ce moment-là. Donc là, on a décidé de faire des réserves pour éviter ça. Puis qu'en moment de conflit, comme un peu ce qui se passe avec l'Iran, ben là, c'est les États-Unis qui ont été initiateurs de tout ça, mais tout le monde a suivi un peu le rythme à travers la planète. C'est dire au cas où, ben j'aurai un backup le temps que ça se règle. Donc là, les États-Unis ont comme 750 millions de capacités potentielles. Il y avait 450 millions en réserve. Puis bon, il y a le Japon, l'Union européenne embarquée là-dedans, puis d'autres pays de l'Asie. Donc là, le but, c'est de dire, ben pendant qu'on perd la production, on peut compenser par d'autres choses.
Exact.
Une fois qu'on a dit ça, pourquoi le Canada, on n'en a pas? Ben parce que le Canada, premièrement, on en produit du pétrole. Fait que je pense qu'on vit un peu dans notre naïveté populaire normale de dire, ben on va pouvoir se produire notre propre pétrole puis vivre avec ça. Fait qu'il y a un petit peu de naïveté, je pense, là-dedans.
Surtout qu'on dépend, David, des raffineries aux États-Unis pour notre pétrole.
Ben oui, c'est ça. Tu sais, on a des raffineries au Canada, on se comprend. Il y en a à Montréal-Est, puis il y en a, ça arrive sud à Québec. Mais tu sais, c'est pas ça qui va nous permettre de nous sortir du trouble si ça va pas bien. Mais c'est un peu la même discussion que les réserves d'or, parce qu'au Canada, on a vendu tout notre or solide il y a quelques années.
C'est l'ère Trudeau.
Ben c'est ça. Fait que là, on n'a plus de backup non plus de ce côté-là. Fait que si notre monnaie a crash, puis on est vraiment dans le trouble économiquement, on n'a pas de plan B comme d'autres pays peuvent en avoir avec des réserves d'or solides. Mais pour en revenir au pétrole, ben le Canada, je pense qu'on a toujours été dans cette naïveté-là. On s'est dit, écoute, si ça marche pas bien, mais notre voisin d'à côté, il y en a des centaines de millions de barils cachés dans une montagne à quelque part. Fait que ça va faire la job pareil. Puis on achètera sur le marché international au prix que ça donnera à ce moment-là. Puis là, ben, on se retrouve avec aucune réserve stratégique, qui n'est pas un enjeu direct en ce moment, parce qu'on manque pas de pétrole non plus au Québec et au Canada. Mais c'est juste plate, parce que là, comme dans bien d'autres sujets, on est dépendant de nos alliés, puis on dit, moi, j'en ai pas, fait que pouvez-vous me backer, s'il vous plaît, tu sais.
Est-ce que, parce qu'au Canada, à chaque jour, on consomme moins de pétrole qu'on en fait, donc on est exportateur. Qu'est-ce qui fait en sorte que, ici, on paye le même prix, exemple, qu'ailleurs pour ce qui est du pétrole, alors qu'on est des producteurs de pétrole? C'est qu'on, notre pétrole s'en va dans un lot, puis on évalue le lot, puis on met un prix là-dessus?
Ben c'est ça, c'est un prix internationalisé, dans le fond, c'est un coût qui est, en tout cas c'est un peu compliqué parce que c'est des contrats d'achat à moyen long terme dans la prochaine période, là. En tout cas ça serait technique à expliquer puis un peu plate, mais tout ça pour dire que tout baril qui se vend à $ US puis il se vend dans un contrat d'achat futur. Donc là, les marchés qu'on suit à tous les jours, c'est le prix qui va être payé pour acheter un baril dans 3 mois, 1 mois et demi, en tout cas dépendant lequel qu'on regarde. Donc là, nous, même si on est exportateur net, si on veut respecter les ententes internationales, on doit payer le prix du marché, même si on en fait plus qu'on en a besoin. Donc là, la différence qui peut arriver, c'est ce que le Venezuela faisait dans le temps d'Hugo Chavez, où le pétrole était produit au prix du marché, mais il était ultra subventionné lors de la raffinerie, du raffinage. Puis là, ce qui était le produit de tout ça était à comme 4 cents du litre là, aux stations d'essence au Venezuela. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire, mais c'est une subvention aux consommateurs beaucoup plus qu'une subvention au baril de pétrole qui est, lui, lié au marché international. Là.
OK. Maintenant, on s'en va à l'international. Trump qui demande l'aide de l'OTAN et de la Chine pour débloquer le détroit d'Hormuz. Le détroit d'Hormuz, c'est un endroit où passe 20% du pétrole, là, ce qui fait en sorte qu'on craint le pire là, pour ce qui est des réserves de pétrole mondiales. Ça fait augmenter le prix du pétrole. L'Iran est collé sur le détroit d'Hormuz, ce qui fait en sorte que des côtes, on peut descendre les pétroliers qui passent là. Trump aurait pas pu s'entendre au départ pour justement une stratégie advenant le cas où il rentre en guerre avec l'Iran, avec l'OTAN? Parce que là, c'est comme si il est en état de panique actuellement, parce qu'aux États-Unis, là, l'inflation commence à monter dangereusement, alors qu'il avait promis le contraire. Et là, il est pris avec cette guerre-là en Iran qui fait monter le prix du pétrole. Puis, tu sais, advie aux gens de Québec solidaire, là, le pétrole, c'est pas juste l'essence. Là. Vous êtes entouré de pétrole. Là. Peu importe où vous êtes, il y a du pétrole autour de vous autres. Dans votre cellulaire, il y a du pétrole. Pourquoi Trump s'est pas entendu avant?
Ben écoute, il y a deux choses là-dedans. Okay, la première, c'est que l'Iran a adopté une posture que je considère similaire un peu aux talibans puis aux Mujahideen dans le temps en Afghanistan dans les années 70-80, avec l'URSS qui avait envahi le pays. Puis clairement, les Mujahideen n'avaient pas la capacité de résister, mais eux, ils ont dit « les Russes ont les montres, nous autres, on a le temps ». Ça, c'est une mentalité qui est très très répandue au Moyen-Orient, de dire que si tu endures puis que tu es capable de suffire, si on veut, à la demande quotidienne d'une guerre comme ça, puis d'endurer les coups que ça te donne, ben le temps va finir par rattraper les pays occidentaux puis les grandes puissances qui, eux, à un moment donné, il y a une pression politique, il y a une considération budgétaire parce que ça coûte cher faire des missions comme ça. On parle de quasiment... Ben en fait, moi, j'ai vu une estimation jusqu'à 1 milliard de dollars par jour pour les États-Unis puis Israël combinés en ce moment. Fait que oui, les États-Unis, ils dépensent de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain en militaire, mais à un moment donné, ça va finir par faire un trou. Donc là, je trouve que Trump a l'air du gars qui dit « Moi, je vais déménager en fin de semaine. » Puis là, les chums ont dit « T'as-tu besoin d'aide? T'es-tu sûr? » Puis il a dit « Non, moi, je suis correct. » Puis là, il arrive pour sortir le frigidaire du camion puis il se rend compte que le troisième étage, c'est plus haut. Fait que là, il rappelle le beau-frère pour dire « Hey, buddy, ça te tente-tu d'amener ta paire de bras? Je paierai la bière au pire. » Mais là, il est un peu tard parce que ton beau-frère, il est rendu à jouer au golf à Trois-Rivières. T'sais? Fait que là, ma savante analogie s'arrête ici, mais le point étant que... créer une coalition quand tu fais une mission internationale, peu importe laquelle, c'est toujours positif pour, de un, légitimer ton ta mission, de dire hey, je suis pas tout seul à penser ça, on est plusieurs. Là, dans l'occurrence ici, on a Israël puis les États-Unis, mais on n'a pas vraiment d'autres pays qui participent directement. Donc ça, je trouve que c'est une faute dès le départ. Puis après ça, ben, tu sais, les États-Unis ont la capacité militaire amplement de sécuriser le détroit d'Ormuz, mais il va falloir qu'ils dégarnissent d'autres fronts. Donc avec l'Asie, la Chine, la Russie, etc. Donc là, je pense pas qu'il manque de bateaux puis de quincailleries pour sécuriser le détroit, mais c'est un peu une façon aussi de pour Trump de dire « Check mes alliés de l'OTAN, comment ça sert à rien, je suis là puis je suis dans le détroit puis je dépense tout moi-même pour sécuriser la planète. » Puis la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, puis tout ça sont assis sur leurs mains puis ils récoltent les bénéfices encore.
C'est parce qu'on a l'impression qu'ils se ramassent, David, on a l'impression qu'ils se ramassent dans le trou. Puis, tu sais, pour tous ceux qui ont lu le livre de Sun Tzu, The Art of the War, ou encore The Art of the Deal de Donald Trump des années 80, tu sais, c'est un jeu d'échecs constant. Puis tu disais, attends un peu, il n'a pas pensé à ça avant? Ou s'il a pensé, c'était intentionnel là, de demander à l'OTAN de l'aide, de demander à la Chine de l'aide? Tu sais, ces gens-là, ouais. On a beau penser ce qu'on veut de Donald Trump, mais sont entourés de stratèges, des quotients intellectuels qui sont quand même très élevés. Là. Ils n'ont pas pensé à ça avant?
Bien, ce qu'on découvre avec le temps, c'est que l'intervention est très, très militarisée, mais très peu politique. Puis, tu sais, on en parle depuis le début de l'invasion ensemble. Là. Faire une mission aérienne comme ils font, c'est très efficace parce que l'armée américaine, du point de vue aérien, si tu prends la Navy puis la Air Force puis tout ça, c'est impossible de contrer ça. Mais t'es dans les airs seulement, t'as pas de fameuses boots on the ground, là, de soldats qui vont aller contrôler le terrain. Puis ça, d'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi il y a un bataillon là, de Marines qui se déplace, qui aurait 2500 soldats qui seraient prêts à être déployés physiquement sur place, mais je pense pas que c'est suffisant. Donc là, le plan à la base, je pense que c'était de faire une grosse claque sur la gueule au régime, puis de bénéficier de la révolte populaire pour dire « on fait un changement de régime ». Puis à mon sens, c'est peut-être un peu naïf, parce que j'ai toujours été d'accord avec le fait de sortir les ayatollahs de l'Iran puis d'en revenir à un pays plus laïque comme c'était dans le passé, sauf que la façon de le faire, je la trouve un peu naïve, parce que on pense que juste en tirant des bombes, ça va faire tomber le régime. Puis là, ben, ils ont utilisé une stratégie qu'ils ont appelée la mosaïque, où ils ont complètement décentralisé le commandement militaire. Donc, il y a je pense que c'est une trentaine de commandements localisés un peu partout dans le pays qui ont aucun lien avec le central, puis ils font ce qu'ils veulent. Fait que ça, militairement, c'est quasiment impossible à contrer. Puis en plus, ben là, on sait que, bon, l'ayatollah Khamenei est mort, là, il s'est fait bombarder, puis son fils a été blessé gravement.
On parle de jambes décapitées, on parle de défigurés. On dit qu'il aurait été défiguré, il aurait été opéré en Russie. C'est-tu confirmé, ça?
Ben, pour l'instant, moi, j'ai pas vu de confirmation officielle. Le régime dit qu'il est blessé, mais il n'y a pas personne qui a eu un smoking gun en bon français pour vraiment confirmer ça. Mais disons qu'il est blessé, puis il n'est pas vraiment en commandement en ce moment. Ben l'Iran tient pareil en ce moment. Là. Donc là, le point étant que c'est pas parce que c'est le plus meilleur pays du monde comme le Canada, c'est pas ça le point. C'est juste de dire que il y a une résilience qui a surpris tout le monde, je pense, dans les circonstances. Parce que disons-le, il a tombé de la bombe à Téhéran pas mal. Donc là, c'est quoi le prochain step? Parce que là, Trump, il dit on est proche d'un accord, on est sur le bord de la fin de la guerre parce que les marchés boursiers et du pétrole, comme on parlait tantôt, ont été affectés. Mais c'est-tu vraiment la fin de la guerre? J'en suis pas convaincu, parce que l'Iran, même s'ils ont plus de capacité aérienne, ils ont encore des missiles puis des drones un peu partout, puis on sait pas combien puis comment. Donc ça, c'est préoccupant.
David Chabot, merci, on se reparle la semaine prochaine.
Ah, merci les gars.
Bye-bye.
Salut!
David Chabot, chroniqueur international, qui utilise son GPS pour conduire son véhicule à Québec, ville où il réside depuis plus de 30 ans.
Ouais. C'est ça, exactement. C'est un ça. Peu particulier.
Le monde, il change. Hein. C'est comme ça.
Les jeunes n'apprennent plus par cœur.
Danny Gravel s'en vient dans les prochaines secondes. 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. Max?
Pour l'instant, on est pas mal dans l'heure de pointe habituelle, là, les différents points chauds. Capitale Ouest, Henri IV, Capitale Ouest vers Laurentienne. Capitale... Est, il y a quand même un bon ralentissement aussi là, vers Pierre-Bertrand, c'est assez jamé. Robert Bourassa Sud dans le coin de boulevard Le Bourgneuf comme d'habitude, mais ça s'étire même un petit peu plus loin ce matin, l'autre bord de Capitale. Arcade Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest au rouge. Quand tu roules vers Shannon, bon ralentissement aussi. Secteur des ponts, un bon petit bordel également ce matin.
Les news. 102.1.
En ce 16 mars, trois manchettes.
Un appel jugé menaçant mené à l'évacuation de l'aéroport international Jean Lesage de Québec hier soir. C'est un peu après 22h que le 911 a reçu l'appel en question. Les policiers qui se sont déplacés sur place ont érigé un périmètre pour faire nos vérifications et un peu avant 3h, on a annoncé que l'accès à l'aéroport était à nouveau accessible. On dit que les vérifications faites nous ont mené à que ce soit non fondé, là, l'histoire d'objets suspects. Il y a une enquête qui se poursuit pour déterminer l'origine de l'appel menaçant. La vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, un arbitre a été agressé par un parent après un match de hockey junior D disputé samedi à Lac-Etchemin. On peut voir les arbitres quitter la patinoire avant qu'un homme pousse assez violemment l'un d'eux. L'homme de 39 ans qui a attaqué les arbitres a par la suite été arrêté pour voie de fait avant d'être libéré sous promesse de comparaître à la victime qui a subi une blessure à l'épaule. Et le maire de Québec, Bruno Marchand, s'envolait ce matin pour l'Alberta pour une mission de 5 jours accompagné d'une délégation d'à peu près une quinzaine de personnes. Un voyage du côté d'Edmonton et de Calgary doit notamment rencontrer aujourd'hui le maire d'Edmonton, Andrew Knack, du côté de l'hôtel de ville là-bas. On veut regarder là, tout ce qui se fait, notamment en matière d'infrastructure, en vue des travaux pour le tramway.
Au sport!
Le Canadien de Montréal qui est en action deux fois en fin de semaine et ses deux défaites. Samedi, 4-2 face aux Sharks de San Jose. Hier, 4-3 face aux Ducks d'Anaheim. Suzuki, Caulfield, Newhook qui ont scoré hier. Kirby Duck qui a quitté le match blessé. Le Canadien qui reçoit les Bruins de Boston demain du côté de Montréal.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation ou le transport,